88e jour de guerre, malgré le cessez-le-feu, les États-Unis ont décidé de frapper des sites de missiles pour pousser l'Iran à signer un accord. Il faut de la force, c'est ce qu'on dit encore dans l'entourage de Donald Trump. Justement, nous allons à Washington retrouver Antoine Hollard en direct pour BFM TV parce que, Antoine, il y a quand même un fait notable. Il y a une réunion demain du cabinet de Donald Trump et alors ça se déplace du côté, il faut le reconnaître, de Camp David, un nom symbolique pour la paix.
Oui, exactement. Camp David, c'est cette résidence à environ une heure de route de Washington, dans le Maryland. C'est la résidence des présidents américains. Et c'est à cet endroit que, à la fin des années 70, un accord de paix très important avait été négocié entre Israël et l'Égypte. Et donc, c'est dans cette résidence que demain, Donald Trump réunit son cabinet ministériel, son conseil des ministres, en fait. Tous ces ministres seront présents autour de Donald Trump, autour de la table. Officiellement, il va s'agir de parler des accomplissements de l'administration Trump sur l'économie en particulier en vue des élections de mi-mandat qui auront lieu dans moins de 6 mois. Mais évidemment, il y a l'Iran qui risque de dominer les débats et symboliquement, donc, on voit que Donald Trump cherche à marquer le coup, à s'inscrire dans cette tradition, de ce lieu. Ce lieu, donc, très fort symboliquement en termes de paix. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un accord sera annoncé demain à l'occasion de cette réunion ? Difficile à dire. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les Américains assurent que les frappes américaines qui ont eu lieu cette nuit, dont vous avez parlé, et qui ont visé des lance-missiles et des navires, des gardiens de la Révolution, des navires qui étaient en train de déposer des mines dans le détroit d'Hormuz, Washington assure en tout cas que ces frappes ne constituent pas une violation du cessez-le-feu et ne remettent pas en cause les discussions. Le chef de la diplomatie, Marco Rubio, affirme que les discussions se poursuivent et qu'un accord est à portée de main dans les prochains jours.
Merci Antoine Delar, en direct de Washington.
Alors, il faut quand même revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Absolument. Avec les États-Unis qui, pour la première fois depuis plusieurs semaines, ont frappé le territoire Absolument. Iranien. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est une violation du cessez-le-feu, comme le disent les autorités iraniennes ? Et quelles sont les conséquences de tout ça ?
En fait, c'est un engrenage, mais on l'a déjà eu deux fois avant, rappelez-vous. Les Américains ont pris à partie des vedettes iraniennes qui étaient, à leur dire, posées des mines dans le détroit d'Hormuz et surtout étaient en position de pouvoir attaquer des bateaux. Donc ils ont engagé ces vedettes, ils ont coulé. Les Iraniens, puisque les vedettes avaient été coulées, ont riposté sur des navires américains qui étaient à côté avec des tirs de missiles anti-navires tirés depuis les côtes iraniennes. Et donc, évidemment, repérés, CENTCOM a fait organiser tout de suite des frappes derrière pour détruire les lanceurs. En fait, c'est ça qui s'est passé. Et ça s'est passé exactement comme ça s'est passé les deux fois précédentes. Rappelez-vous, quand les Américains ont commencé à vouloir faire leur projet Liberté, pour faire passer un certain nombre de bateaux.
C'était libérer le détroit d'Hormuz.
Il y a 3 bateaux qui sont passés, hein, oui. Et un qui a été attaqué par les Iraniens. Là, ils en ont fait passer un aujourd'hui. C'est la troisième fois qu'en fait, on voit que quand les Américains veulent faire passer des bateaux, puisque le bateau est passé ce matin, mais hier soir, ils ont évidemment fait une reconnaissance sur le détroit pour voir ce qu'il y avait comme menace. Ils ont détruit cette menace. Les Iraniens ont riposté avec des tirs de missiles et ils ont frappé les missiles. Donc on est dans une sorte de pas de danse, si je puis dire, assez connue, qui est certes officiellement une brèche dans le cessez-le-feu, mais qui a déjà eu lieu 2 fois avant et qui n'a jamais dégénéré au-dessus de ça.
Est-ce que ça veut dire que la paix recule ou
je ne
ça ne veut rien dire? Non.
Moi, je ne le crois pas, mais je peux me tromper. C'est pas moi qui dois le croire. Si les Iraniens décident que c'est une occasion d'arrêter les négociations, ils le feront, mais je ne le crois pas non plus.
Les gardiens de la Révolution qui ont quand même déclaré avoir abattu un drone américain, c'est la réponse, si j'imagine bien.
Oui, on voit bien que là, vous avez encore un nouvel engrenage qui est donc la troisième fois que ça se produit, où les 2 fois précédentes, tant les Iraniens que les Américains disaient que ce n'était pas une brèche, ce n'était pas un arrêt du cessez-le-feu, ce n'était pas une reprise des hostilités officiellement. De fait, Donald Trump n'a pas intérêt aujourd'hui à expliquer qu'il reprend officiellement les hostilités et qu'il relance finalement le compte à rebours par rapport aux 60 jours, avec tous les engrenages politico-administratifs que ça implique. Et côté iranien, il y a de fait le sujet que nous sommes en pleine négociation négociations, bien sûr. Et le fait que les Américains essayent de faire passer des frégates dans le détroit pour faire sortir des navires, bah, c'est évidemment quelque chose auquel les Iraniens, qui veulent absolument avoir le contrôle opérationnel du détroit, doivent réagir. Et ils doivent réagir parce qu'évidemment, eux, sur leur position, s'ils lâchent quelque chose, c'est dans la négociation immédiatement qu'ils le perdent.
Mais Olivier Lasmolle, vous qui êtes officier de réserve opérationnelle de la Marine nationale, moi j'ai entendu quand même depuis l'Inde le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, dire le détroit d'Ormuz va rouvrir d'une manière ou d'une autre.
Bah, ça fait partie de la pierre d'achoppement dans l'accord cadre qui certains disent qu'il est vide, mais il y a un accord, un cadre malgré tout. C'est le détroit et l'uranium. Mais le détroit va rouvrir même les
d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire par la force aussi.
Mais on négocie et on pilonne en même temps. C'est une façon de négocier avec un rapport de force. La semaine dernière, on avait une phase. On l'avait dit sur ce plateau le soir, vendredi soir. Les États-Unis n'attaqueront pas ce week-end. Parce qu'on était au bord, comme disait Trump, d'un accord. Et là, maintenant, il dit, ça y est, on a quasiment l'accord. Et puis, une fois que tout ça a été mis en place, ben, on commence à rentrer dans le dur. Et donc, ben, évidemment, c'est comme... Excusez-moi, je devrais pas dire ça de la part de l'Iran ou des États-Unis, mais comme des sales gosses. C'est-à-dire celui qui va essayer de chercher, pousser le plus, de le titiller. Donc, l'Iran, et je reprends ce que vous avez dit la dernière fois sur le plateau, l'Iran n'avait sûrement pas mis de mines. Et donc, on leur dit, ben, faudra enlever vos mines. Et j'ai l'impression de voir quelqu'un qui dit « Mince, on avait dit qu'il y avait des mines, on nous a les enlevées, donc rapidement, on va peut-être aller en mettre, parce que bah, sinon, on va passer pour finalement un État qui est fort, qui dit quelque chose et qui... Et on aura une mine. » Donc,
alors là, pourquoi cette frappe-là, alors? C'est juste histoire de dire « Je t'en remets une avant qu'on signe »,
c'est ça? C'est exactement ça.
Pardon, l'expression, c'est comme à la boxe, quoi.
Mais bien sûr, les États-Unis n'ont pas bougé le week-end dernier. D'accord. Là, on est dans une nouvelle séquence, parce que c'est vraiment... Tout est séquencé. Ah. Quand on aura fini le conflit, on verra qu'on pourra reprendre séquence par séquence.
Mais souvenez-vous, la semaine dernière, on était sur ce même plateau, à cette même heure, et on se disait que c'était la septième fois, la semaine dernière, qu'il y avait ce côté « Je vais vous frapper, vous allez voir ce que vous allez voir », et puis le week-end, quand les marchés sont fermés, on redétend un petit peu l'atmosphère, et finalement, on repart juste avant que les marchés réouvrent, et effectivement, il se passe quelque chose ou pas. Là, du coup, c'est la huitième fois qu'il se passe cette même chose. Il faut bien rappeler que hier, c'est-à-dire lundi aux États-Unis, c'était un jour férié, les marchés étaient fermés, c'était Memorial Day. Et de fait, demain, mercredi, il y aura un jour particulier pour, évidemment, la communauté musulmane, c'est l'Aïd al-Adha, qui est effectivement l'un des jours les plus importants de l'année. Et donc, fondamentalement, il y a une période ici où on se retrouve dans le même schéma qu'on a vécu déjà 7 fois, maintenant une 8e fois, où, à la réouverture des marchés, malheureusement, il y a une remontée des tensions, voire des frappes.
Karim Émile Bitar, alors, paix ou pas paix cette semaine?
Je pense que la paix le deal n'est pas forcément remise en cause. Il y a une dimension importante à prendre en considération ici, c'est la politique intérieure aux États-Unis. Parce que dès que l'accord ou la déclaration d'intention a fuité, Trump a commencé à se faire attaquer sur sa droite. Oui. Par des anciens officiels.
Sur le mode « tout ça pour ça ».
Tout ça pour ça. Donc, par exemple, Mike Pompeo, qui est l'ancien directeur de la CIA, qui est un néoconservateur, qui est aussi un évangélique, c'était un trumpiste. Il avait même été jusqu'à dire dans un portrait du New Yorker, il avait dit « Trump est la réincarnation de la reine Esther, il a été envoyé par Dieu pour sauver le peuple juif ». Et là, hier, il se lâche contre Trump, il dit « l'Iran est un monstre, il faut terrasser ce monstre, il faut surtout pas s'arrêter maintenant ». Vous ajoutez à ça Lindsey Graham, j'ajoutais à cela...
Donc la pression de l'aile droite.
C'est cela, et c'est un courant idéologique assez puissant aux États-Unis. Déjà dans les années 80, ils accusaient Ronald Reagan de faire de l'appeasement, d'être trop soft parce qu'il négociait avec Gorbatchev. Ronald Reagan, c'était quand même le président républicain faucon qui a contribué considérablement à gagner la guerre froide. Mais lui-même, le simple fait qu'il négociait des accords de désarmement avec les soviétiques était considéré par les néoconservateurs comme
un
pas de...
Donc Trump est un peu coincé, là, c'est ça ?
Donc Trump est un peu coincé, il ne veut pas apparaître comme faible. Il est obsédé par apparaître comme le président fort, celui qui n'a pas capitulé.
Donc s'il signe, il faut qu'il signe la victoire. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de demi-mesure, quoi, en fait.
Il ne pourra pas signer de victoire, mais il faut qu'il puisse vendre quelque chose à son électorat.
Des gains.
Parce que quand vous parliez d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force, on n'a pas de militaire aujourd'hui avec nous, mais je ne vois pas comment on pourrait faire pour l'ouvrir par la force. Et ça passera par la négociation. Et là, comment vendre au public les concessions qu'il va être contraint de faire, c'est là le grand enjeu.
Et puis par ailleurs, il y a quand même une chose, hein. Ils ont les Iraniens en face. Donc, je pense qu'ils ont parfaitement compris à qui ils avaient affaire, les loustiques, et tout le monde se teste. Donc, les consignes qui ont été données par Donald Trump à son chef d'état-major, c'est moi, je négocie, mais vous, le cadre, il est simple. S'ils font ça, ça et ça, s'ils mettent des mines, s'ils attaquent, c'est un, vous avez le droit d'ouvrir le feu. Et donc, eux, ils ont ce qu'on appelle dans les armées une directive endurante. Et la directive endurante, elle donne les règles d'engagement et elle a délégué l'OPCON pour savoir qui peut faire quoi. Et typiquement, je pense que Sandcom a clairement une orientation qui dit si vous testent, vous répondez. Vous ne leur faites pas, vous, parce que sinon, ils vont prendre de l'espace.
Ouais.
C'est, voilà, vous tracez la ligne rouge et la ligne rouge, elle est là.
Dans la guerre de communication, les images diffusées par les Iraniens de ce drone américain abattu.
Ouais, alors il est bizarre ce drone, ouais.
Il est bizarre, comment ça?
Non, parce qu'il disait que c'était un Reaper, c'est pas un Reaper, clairement. Ça, c'est pas un MQ-9, mais c'est un drone, ça c'est certain, mais je sais pas lequel c'est.
Et ces drones servent à quoi?
À espionner.
Ils partent d'où des porte-avions
Alors, ils pourraient, mais en fait, non, le porte-avions fait un peu autre chose, mais ils ont tout ce qu'il faut en face. Hein, vous savez, ils peuvent partir d'Oman.
Un drone abattu, bon, là, les Iraniens.
Surtout les drones, c'est facile à abattre, en fait.
C'est facile à abattre.
Ah, bah, c'est pas de la bécasse, hein, ça vole lentement quand même. Hein, okay. Et ça fait pas de zigzag.
C'est pas de la bécasse.
D'accord, mais quelles sont les dimensions? Parce que c'est pas des dimensions de bécasse.
Alors, celui-là, c'est pas le Reaper est beaucoup plus grand. Celui-là, justement, c'est un drone, je sais pas, il doit faire, pour ce qu'on en voit, il doit faire 3 mètres de long, il fait ça de large, donc il y a une boule optronique devant, mais là, je sais pas lequel c'est, mais il est très étrange. Et vous voyez bien qu'il a pris des petits impacts, donc il a dû être tiré avec un manpad. Ça roule pas, ça va pas, c'est pas très haut.
C'est pas une perte pour les vite. Américains, quoi, de toute façon.
Ah non, ils en ont plein. Si ce soit un Reaper, ça aurait été plus important, mais ceux-là, honnêtement, c'est presque fait pour ça. C'est très lent, ça dure très longtemps. Ça fait un bruit de tondeuse à gazon. C'est vraiment fait pour rester longtemps en l'air. Mais c'est pas fait pour faire de l'évasion.
C'est pour prendre des photos.
C'est ça, en fait, ça filme en permanence.
Ça filme en permanence et c'est relié et c'est relié voilà, en simultané.
En fait, il y a une boule optronique dedans, devant, alors, avec
pourtant,
une caméra.
On nous dit que c'est un MQ-9 Reaper.
Oui, c'est ce que disent les Iraniens, mais c'est pour ça que je vous dis, ça y ressemble pas.
Vous doutez.
Je doute beaucoup du MQ-9 Reaper. Ça serait beaucoup plus lourd. Ça a pas cette tronche-là. On a passé l'après-midi dessus parce qu'ils nous disent effectivement que c'est un MQ-9. Alors, il est un peu façon Ikea, ouais. Mais je pense pas que ça soit un Reaper.
Alors, on va aller à Doha, au Qatar, retrouver Lola Baye en direct pour BFM TV, parce que parmi les épisodes du jour à raconter, à vous narrer, il y a aussi le fait qu'il y ait, Lola, un pétrolier qui a été touché dans le détroit. Alors, touché par une mine, vraisemblablement.
Effectivement, Alain, pour l'instant, il y a encore peu d'informations sur le contexte, sur ce qui filtre. Mais en tout cas, l'information principale cet après-midi, c'est un pétrolier qui a été touché au large d'Oman. C'est ce que nous rapporte l'agence de sécurité maritime britannique. Ce que l'on sait, c'est que l'équipage est sain et sauf. En tout cas, ça illustre avant tout un regain de tension dans le détroit d'Ormuz, puisque cette nuit, des frappes américaines, dites, je cite, des frappes défensives, ont ciblé au sud de l'Iran et dans le détroit d'Ormuz, des sites de lancement de missiles et des vedettes iraniennes soupçonnées de poser des mines dans le détroit. Des explosions qui surviennent alors même que ce week-end encore, un compromis semblait possible. Ce à quoi l'Iran, un peu plus tôt dans la journée, a répondu que ces frappes américaines étaient une violation du cessez-le-feu installé depuis le 8 avril.
Merci Lola Baye, en direct de Doha au Qatar pour BFM TV avec Hugo Dorsemin. Alors que sait-on là sur ce pétrolier, rien, c'est pas une mine.
On ne sait pas si c'est une mine.
Sabotage.
En fait, si c'était une mine, ce serait la première fois qu'un bateau est touché par une mine. La dernière fois qu'un pétrolier avait été touché au large d'Oman, c'était au tout début de la guerre et c'était par un drone sous-marin. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut vous dire, c'est ce qu'on sait.
C'est peut-être effectivement un drone sous-marin parce que ça peut. C'est une explosion
externe.
Oui, c'est une explosion
ça qui est bizarre. Externe.
C'est pas une explosion.
C'est pour ça que la mine, attention.
Dans le navire, ça aurait pu être le moteur, le turbo qui explose et ça prend feu. Ça arrive. Un navire de commerce, ça peut arriver. Sauf que c'est une explosion externe. Donc c'est soit une embarcation suicide. Soit une embarcation qui a tiré dessus, comme avec le Limburg dans les années 2000. Mais ça, ils l'auraient vu arriver et ils auraient communiqué. Et les Britanniques qui ont l'équivalent du Mika Center qu'on a à Brest nous auraient fait remonter l'information. Donc, a priori, c'est quelque chose de plutôt sous-marin. Parce qu'ils disent d'ailleurs, au début, c'était au-dessus de la ligne de flottaison. Et maintenant, on dit, c'est à la limite. et c'est le principe même, c'est de toucher à la limite de la ligne de flottaison pour que ça fasse une brèche.
Alors, mais qui aurait intérêt, c'est les Iraniens ou c'est les Iraniens?
Oh, bah, c'est les seuls.
Histoire de dire, regardez, on peut toujours agir. Quoi, c'est
oui.
Ça.
Pourquoi ils y ont intérêt? Je connais pas du tout les questions techniques, mais politiquement, ils veulent tourner la page qui s'est ouverte en 91 lorsque les troupes occidentales ont pris pied dans le Golfe. Après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, les Saoudiens ont accepté qu'il y ait une base américaine là-bas. C'est ça qui va donner des arguments à Al-Qaïda pour se mobiliser contre les Américains. Donc aujourd'hui, vous avez la 5e flotte au Bahreïn, vous avez la base d'Al-Udaid au Qatar qui est très importante pour les Américains, vous avez des bases françaises aux Émirats Arabes Unis, et dans le scénario idéal des Iraniens, ils veulent que les Américains s'éloignent le plus possible de leur sphère d'influence. Cela ne va pas arriver forcément, mais en multipliant des incidents de ce type, ils augmentent le coût que les États-Unis payent s'ils veulent maintenir une présence militaire dans cette partie du pays.
C'est un message qui est envoyé aussi aux alliés des Américains.
Aux alliés des Américains, c'est ça. Mais il ne faut pas sous-estimer l'argumentaire que cela a fourni à tous les groupes terroristes. Quand les Saoudiens ont accepté que les lieux saints soient souillés, Ben Laden disait « c'est là que j'ai décidé de faire le 11 septembre quand j'ai vu ma patrie, l'Arabie Saoudite, ouvrir ses portes aux militaires américains. Il a considéré que c'était une souillure et c'est l'une des causes profondes du 11 septembre.
Autre information aujourd'hui, ça concerne la population iranienne puisque les autorités, c'est surtout la présidence, annoncent qu'on a rétabli Internet partiellement en Iran. Ça faisait trois mois que les Iraniens n'avaient plus Internet, que tout était coupé.
Oui, ça change radicalement la donne. Il fallait payer des fortunes pour avoir un VPN, ne serait-ce qu'une trentaine de minutes. Oui. Et cela empêchait les Iraniens de travailler, de se connecter et de se mobiliser politiquement. Cela avait porté un coup dur au mouvement de protestation.
Et ça peut être aussi intéressant pour sonder aussi cette population iranienne, parce qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe en ce moment sur place, de comment les Iraniens vivent cette période de cessez-le-feu, comment la répression aussi continue de s'organiser. Peut-être que grâce à Internet rétabli, on va pouvoir avoir des informations.
Ça serait génial, parce qu'on fait, c'est un vrai trou noir. Hein, et on
c'est le trou noir de cette guerre. Hein.
Alors qu'on a quand même une population qui a été d'un grand courage et qui l'a payé cher. Donc ça serait bien de le savoir. Je pense que y a la raison pour laquelle Pezeshkian, et c'est en tout cas ce qu'il dit, a rétabli l'Internet, c'est pas pour faire plaisir aux gens, c'est parce qu'ils ont un problème économique majeur. Et c'est la raison pour laquelle ils lâchent. Eh oui. Ils acceptent les négociations. Les gens ont besoin en urgence de leurs 10 milliards. Pourquoi? Parce que ce régime, à peu près, a plus qu'une base d'à peu près 2 millions de personnes sur 90. Et les 88 autres millions voudraient faire des colliers avec leurs oreilles. Donc, honnêtement, s'ils n'ont pas d'argent pour payer les gardiens de la Révolution et acheter leur loyauté, ça va à la catastrophe. Ils sont pris à la gorge. Ils ont besoin de ça.
Allons à Téhéran retrouver Siavosh Ghazi en direct pour BFTV. Première question, Siavosh, vous confirmez qu'il y a un retour partiel d'Internet? Ah ben on va voilà ben justement alors retour partiel peut-être mais là on a perdu Siavosh Ghazi, savoir comment on réagit aussi en Iran. Est-ce qu'en Iran on est dans le même jeu que les Américains, quoi?
Alors ça c'est une parfaite illustration de ce qu'en sciences politiques on appelle Internet et le dilemme du dictateur. Le dictateur n'a pas envie que les citoyens aient accès à Internet pour ne pas qu'ils puissent se mobiliser, s'organiser pour le faire tomber. Mais s'il coupe Internet, son PIB perd 2 points de croissance par an, ce qui ne fait qu'augmenter la colère populaire et la détermination de la population à le faire tomber. Donc en général, les régimes comme le régime chinois ou le régime iranien essaient d'avoir un Internet sous surveillance. Donc Twitter est interdit en Chine, mais ils ont leur propre réseau. Les Iraniens ont utilisé une technologie chinoise pour avoir également un moyen de permettre aux Iraniens de communiquer tout en les surveillant pour pouvoir traquer les opposants les plus dangereux et les liquider.
Mais justement, que sait-on du régime là où il en est, qui dirige, qui a la main? On ne sait rien là pour
pas grand chose.
On a appris, quand je dis « on », c'est les autorités iraniennes, que le guide suprême finalement n'avait que des blessures superficielles.
C'est ce qu'ils disent, oui, mais ils évitent de communiquer directement. On communique par personne, on ne communique plus par technologie. Ils savent qu'ils sont pénétrés jusqu'à l'os par les services de renseignement américains et israéliens. On peut supputer qu'il y a des divisions très profondes à l'intérieur de ce régime, qu'il y a les pragmatiques qui voudraient un deal et les maximalistes. Mais à part cela, c'est une boîte noire, ça a toujours été une boîte noire. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce régime s'est radicalisé depuis 3 mois. L'effet de cette guerre a été contre-productif. Khamenei Junior est encore plus radical que Khamenei Senior. Et en plus, c'est un homme d'argent, alors que son père était plutôt un...
Donc potentiellement corruptible aussi. Non.
Il a déjà suffisamment de quoi faire, donc oui. Ce n'est pas les Occidentaux qui pourront le corrompre. Par contre, il tiendra à s'assurer le contrôle. Et c'est la première décision importante qu'il va prendre, son baptême du feu. Est-ce qu'il accepte ce deal ou pas? Et cette décision, ça reste une grande inconnue.
Si c'est lui qui prend les décisions.
Oui. Il est très proche des gardiens de la Révolution.
Oui, donc,
si ce sont vraiment les gardiens de la Révolution qui sont au pouvoir, comme tout le laisse à penser, c'est lui et ses plus proches collaborateurs qui la prendront, cette décision, mais elle va marquer son mandat de guide suprême.
Alors, il y a l'autre fond de la guerre, hein, aussi, parce qu'on dissocie bien ce qui se passe. Enfin, on dissocie même si c'est lié, mais il faut faire être précis en ce qui concerne l'Iran et les États-Unis, et puis Israël et le Liban. Et on va aller au Liban retrouver Jérémy Normand en direct pour BFM TV. Il est à Beyrouth parce que pour l'armée israélienne, pas question de lâcher le front libanais. Il faut continuer d'anéantir tout ce qui peut être lié au Hezbollah.
Oui, alors j'ai poursuivi ma route après Beyrouth. Je suis désormais à Tyr. C'est la dernière grande ville côtière du sud Liban. On est à quelques kilomètres des zones de combat et de la zone tampon délimitée par Israël. Dans cette ville où le Hezbollah nous a emmenés aujourd'hui sur différentes zones de frappe, parce que la ville a été le théâtre hier d'intenses bombardements menés par l'armée israélienne qui ciblait les infrastructures utilisées par la milice chiite. Vous allez découvrir ce que répond le porte-parole du Hezbollah, interrogé sur les lieux d'une frappe qui a eu lieu hier. Écoutez.
Tant que nous sommes capables d'inventer des méthodes et des armes pour nous battre, nous pourrons poursuivre la bataille. Même si les forces militaires d'Israël surpassent celles du Hezbollah, tant en nombre qu'en puissance de feu, nous nous battrons comme jamais, même avec le minimum de moyens. Nous irons jusqu'au bout.
Voilà le jusqu'au boutisme du Hezbollah, menacé aujourd'hui par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui promet, je cite, d'écraser la milice. Mais vous l'entendez, il y a dans cette réponse toute la complexité de la situation. Le Hezbollah est bien conscient d'être très inférieur militaire sur le plan militaire, mais il dit qu'il se battra jusqu'au dernier homme. Le problème, c'est que cela implique pour les Libanais, eh bien, de se retrouver encore et encore plongés à leur corps défendant dans cette guerre qui touche tout le pays. Et vous le voyez ici, on est dans le quartier chrétien de Tyr. Et en fait, ici, ben, c'est une zone qui est plutôt épargnée d'ordinaire par les frappes. Et ça explique pourquoi tous ces habitants qui viennent des zones chiites, des zones alentours, qui viennent des bastions du Hezbollah, se regroupent à la nuit tombée, ou en tout cas à la fin du jour, ici, pour essayer d'être plus en sécurité. Voilà le quotidien des Libanais, ce peuple entier pris au piège du jusqu'au boutisme du Hezbollah.
Jérémy Normand avec Clément Granon. Mais ça veut dire, Karim Émile Bitard, que si jamais les États-Unis signent avec l'Iran, Israël continuera de frapper au Liban.
Et c'est ce qui m'inquiétait depuis le tout premier jour. On avait dit ça sur ce plateau. Netanyahou a insisté auprès de Trump pour avoir toujours la capacité de répondre à ce qu'il définit comme une menace, et comme il a une définition
très extensive. Il ne sera pas concerné par le cessez-le-feu ou l'accord de paix, enfin la trêve.
Les Iraniens voudraient quand même inclure...
Les Iraniens insistent même pour inclure, pour pouvoir dire au Hezbollah, on ne vous a pas lâché, mais c'est la deuxième fois qu'Israël refuse que le Liban... Parce qu'à Islamabad, lors du premier cessez-le-feu, le Liban devait être inclus dans le cessez-le-feu. Ce n'est que le lendemain, quand Netanyahou a appelé Trump, que Trump a dit, parce qu'il y a le Hezbollah, on autorise Israël à continuer ses frappes sur le Liban. Donc c'est un bras de fer, et ça risque d'être aussi un des points d'achoppement qui pourrait faire capoter cet accord, car les Iraniens ne peuvent pas donner l'impression d'avoir lâché le Hezbollah, qui s'est précipité à leur défense en entraînant le Liban dans leur perte.
Oui, là ici, la subtilité qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans le premier cessez-le-feu, ce qui avait été retenu par Trump, par Netanyahou, c'était que le cessez-le-feu était entre Israël et le Liban. C'est pas entre Israël et le Hezbollah. Mmh. C'est là la petite subtilité sur laquelle, évidemment, aujourd'hui, Netanyahou joue encore et que vous retrouvez...
Mais il y a des négociations qui se poursuivent entre le président libanais et l'israélien.
Voilà, et c'est deux choses différentes. En tout cas, ça a été décorrélé. Et là, l'enjeu, bien sûr, pour les Iraniens et le Hezbollah, c'est d'essayer de recoller, évidemment, les deux parties de la négociation dans le cadre du deuxième cessez-le-feu.
Oui, mais là, Israël continue d'avancer dans le sud Liban, de prendre des positions. Donc ça aussi, il faudra qu'à un moment ou à un autre, Israël dise « Ok, c'est bon, on a fini le boulot, on recule ou est-ce qu'ils garderont ces positions aussi?
Ils risquent fort de le garder parce que l'objectif annoncé est tellement maximaliste, éradiquer le Hezbollah. Ils avaient déjà dit ça en 2006. Quand on annonce un objectif aussi extrême, les études montrent que vous pouvez éradiquer un groupe quand il a 700, 1000, 2000 membres maximum. Mais quand c'est un groupe qui a un ancrage social, qui a plusieurs centaines de milliers de personnes qui le soutiennent pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vous ne pouvez pas complètement l'éradiquer. Ils n'ont même pas réussi à éradiquer le Hamas sur leur propre territoire après 2 années de carnage. Il faut revoir les objectifs à la baisse et les négociations. Le paradoxe, c'est que les négociations directes se poursuivent à Washington entre le gouvernement libanais
et pas avec le Hezbollah
et Israël. Voilà. Ah et c'est ça le nœud du problème, parce que quand bien même ils s'entendraient sur tout, le Hezbollah n'appliquera aucune décision.
Oui, mais là, on a l'impression que c'est sans solution.
Voilà, parce qu'on a entendu ce porte-parole dire à Jérémy Normand, nous. On continuera, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, on ne nous désarmera jamais. On n'enlèvera jamais notre volonté d'en finir avec Israël aussi.
Oui, mais il va se passer sur le Liban, ce qui s'est passé sur le nucléaire et le stock, et sur l'enrichissement, et sur Hormuz. C'est-à-dire que tout le monde va dire non, non, ils vont trouver une solution. Par exemple, le stock d'uranium enrichi, les Iraniens disent qu'ils le gardent, et les Américains disent qu'il va être détruit. Ils ont trouvé une solution, justement, pour que chacun puisse crier victoire. Donc là, la solution pour dire oui, on va faire un cessez-le-feu, c'est l'astuce qu'a expliqué Miko, c'est de dire les négociations se poursuivent entre le gouvernement et Israël avec l'espoir d'un cessez-le-feu entre les deux pays, effectivement qui ne concernera pas le Hezbollah, mais en fait ils vont trouver parce que les Iraniens sont bien gentils, ils veulent faire, bien sûr qu'ils disent c'est leur supplétif le Hezbollah. Mais ils les ont déjà lâchés une fois, ils ont lâché le Hamas. S'il faut les lâcher, ils les lâcheront si c'est leur survie. On n'a jamais vu que la reine ne sacrifiait pas ses pions ou s'en fout. Donc c'est ça ce qu'ils sont en train de chercher, c'est la solution pour le faire.
Pendant que nous parlons, cette information qui vient d'arriver, 108 navires ont été redirigés par la marine américaine depuis le début.
C'est pour ça qu'ils ont... Ouais. Alors, en fait, ça, c'est le
ça contre. Ça veut dire quoi, rediriger?
Alors, c'est le contre-blocus pour revenir. Ouais. Donc, vous avez les Iraniens qui bloquent le passage à Hormuz et les Américains qui interdisent le départ des ports iraniens vers l'Asie, essentiellement, du pétrole et des pétroliers iraniens. Donc, c'est la ceinture extérieure qui est menée par la flotte américaine du Pacifique et CENTCOM qui a, à ce stade, intercepté et refoulé en direction des ports iraniens.
Rediriger, c'est-à-dire refouler.
Oui, c'est ça.
Oui, et là, ce qui est assez intéressant dans le navire dont on a parlé tout à l'heure, le tanker qui a été touché par un missile peut-être ou une mine au large d'Oman. Ce qui est très intéressant dans ce cas-là, de la manière dont le UKMTO, qui est l'un des organismes, on va dire, d'alerte qui existe, c'est que ce navire-là a été touché ou aurait été touché à 60 000 nautiques de Mascate, la capitale d'Oman. Qu'est-ce que ça veut dire? 60 000 nautiques à l'est de Mascate, ça veut dire presque justement au niveau de la ligne qui est censée être la ligne de limite de ce contre-blocus américain. Et donc, ici, c'est pour ça qu'il y a, avec ce tanker et ce cas-là, va y avoir une vraie question qui va se poser d'un point de vue stratégique, c'est est-ce que effectivement c'est un drone sous-marin? Ou est-ce que ce pourrait être une mine comme une LIMSET, par exemple? Donc, c'est-à-dire une mine qui vient se coller, une mine magnétique se coller au niveau de la ligne de flottaison ou en dessous des navires pour effectivement frapper, exploser plus tard. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est assez étonnant, si vous voulez, qu'un navire qui passe le détroit d'Hormuz se retrouve à avoir une explosion au niveau de l'extérieur de sa coque à cet endroit-là, c'est-à-dire bien après des heures et des heures après le passage du détroit d'Hormuz lui-même.
Donc il aurait pu être piégé ou touché par une mine sous-marine.
C'est pour ça que le drone sous-marin reste l'hypothèse la plus forte, d'autant que c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Donc on a le même mode d'action, même endroit, même nationalité. Enfin, en général, c'est un peu même cause, même effet.
Pour revenir sur ce chiffre, les 108 navires redirigés, donc refoulés par la marine américaine, il faut avoir un ordre de grandeur. 108 sur combien, en fait? C'est ça qu'on voudrait, parce que le chiffre est très précis, mais...
Mais ce qui est important,
est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, en fait, le
plus important, c'est pas trop sur combien, c'est est-ce que oui ou non, ça bloque les rentrées financières de l'Iran sur le pétrole.
Voilà. Est-ce que ça a une conséquence?
On sait que c'est un barrage filtrant. C'est-à-dire qu'ils laissent passer, les Américains laissent passer un certain nombre de ces pétroliers à destination de la Chine pour pas faire trop chier les Chinois, pour que les Chinois les emmerdent pas. Mais eux ont, au doigt mouillé, une estimation de ce qui bloque ou bloque pas. Mais honnêtement, moi, peut-être que toi, tu connais mieux. Moi, je peux pas vous dire
Alors c'est pas en nombre de navires qu'il faut calculer, c'est en volumétrie de pétrole transporté. Voilà. C'est comme si on parle d'un porte-conteneur qui a 4000 conteneurs, alors qu'aujourd'hui ils font entre 20 000 et 25 000 conteneurs, on va dire 20 pieds. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en volumétrie. Et là, volumétrie, très clairement, on a baissé de 90%, pour faire simple. Même si c'est un barrage filtrant et qu'il y a des grosses mailles...
Il y a 90% des navires iraniens qui sont refoulés,
oui,
ce que vous dites.
Oui, qui ne passent pas. Et d'où et
alors,
Et la question que je me posais tout à l'heure, je me posais la question en même temps, vous parliez de Liban, du Liban. Je suis pas un spécialiste du Liban, mais la question que je me posais, c'est est-ce que l'Iran, finalement, et Trump, comme les deux sont acculés, parce que l'Iran a commencé à être acculé, les États-Unis, pareil, Trump, ne vont pas décorréler la question du Hezbollah et du Liban et dire, nous, on gère ça, on gère, on rouvre Hormuz, on se débrouille, et finalement, on repousse au calendrier grec la question du Hezbollah et du Liban.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a vu dans le MOU, le mémorandum d'entente qui a été annoncé en grande pompe par Donald Trump ce week-end avant d'être démenti pas plus de deux heures après par les Iraniens, c'est-à-dire qu'il y a une vraie décorrélation du sujet Hormuz nucléaire, premièrement, donc qu'il y ait une triple décorrélation avec le sujet Hezbollah, ça c'est absolument pas surprenant, effectivement. J'en profite pour ajouter un autre point, je reviens sur ce que disait Olivier sur la question de la volumétrie. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, si on raisonne par type de navire et par nombre de navires, en réalité, il y a beaucoup de navires qui aujourd'hui passent encore le détroit d'Hormuz, mais ça va être des petits navires de pêche, par exemple, des choses qui, si vous voulez, d'un point de vue stratégique ici, ne sont ni des cibles pour les Américains, ni des choses à forte valeur pour les Iraniens. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les tankers qui passent, qui ne passent pas, quels sont les navires où il y a véritablement du volume, effectivement, en termes de produits manufacturés, etc. Les VLCC, effectivement, c'est un type de tanker. C'est les super tankers de plus de 2 millions de barils, les VLCC. Donc fondamentalement, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Donc ce que je vais regarder pour répondre à votre question, si je le peux, c'est combien de navires parmi ces 108 sont effectivement des tankers. Et puis ensuite, effectivement, combien de ces tankers véritablement ont été redirigés et combien en réalité ont réussi à faire du transbordement, ont réussi à passer d'une manière ou d'une autre, parce qu'on peut passer, et là pour le coup on a plus d'une dizaine de navires, c'est pas beaucoup, mais qui ont prouvé qu'on pouvait passer à grand risque.
Alors, vous voulez rajouter un mot?
Oui, sur le navire, le pétrolier qui a été touché, une mine, si ça avait été une mine, elle serait accrochée pas sur l'abordé. Ça aurait été.
Il faut aller la poser.
Et elle aurait été par magnétisme, elle aurait collé. Et on aurait eu un navire qui aurait pris l'eau et malgré. Et
qui serait parti par le fond,
malgré les pompes qui auraient coulé. Ou du moins qui aurait été en grande difficulté. Là, en bordée, ça paraît compliqué de voir une mine en bordée. Donc. C'est a priori ce qu'on appelle un drone sous-marin, on va pas rentrer dans le détail.
C'est ce que je te dis.
Et c'est au large d'Oman comme par hasard, donc c'est un signal envoyé à Oman.
Et puis c'est
merci,
le genre de mine.
C'est terminé. Merci.